France Musique. Les grands entretiens, Benoît Dutertre.
Bonjour, mesdames et messieurs. Je m'appelle Gabriel Bacquier. Je suis né le 17 mai 1924 à Béziers, Hérault, 34. Et je suis aujourd'hui personne.
Une puce gentille chez un prince logeait, comme sa propre fille, le brave homme l'aimait. Et l'histoire l'assure par son tailleur un jour. Lui fit prendre mesure pour un habit de cour.
Ces rôles, vous les avez donc joués, Gabriel Bacquier, un peu partout dans le monde, on l'a dit, à partir de ce tournant qui a été Aix en 1960. Et d'ailleurs, tout de suite après Aix, il y a une autre expérience qui a été marquante pour vous, hors de France, ça a été l'opéra d'État de Vienne.
Là, je suis arrivé là-dedans, j'ai mis le pied en plein dedans, il a fallu que je chante Carmen, Don Juan et Tosca, dans la même semaine.
Vous aviez pris l'habitude à l'opéra comique, on peut dire.
Il n'y avait pas de problème. Mais je ne suis jamais allé en scène que pour la représentation.
Ah oui.
Et je n'ai eu une répétition d'orchestre que le soir même de la représentation. Et j'ai tout fait en studio avec des marques par terre.
Ah oui, ça c'est...
Et le chef, heureusement. Donc j'ai fait comme j'ai pu, avec les moyens que j'avais. Et j'ai toujours été en forme, c'est ça.
Ouais.
J'arrive à Vienne, je suis plus en forme que partout ailleurs. Je me dis, c'est pas compliqué, c'est Karajan qui a voulu prendre le diapason verdien.
Et donc c'était différent à Vienne de toutes les autres villes.
Ah oui, et c'est comme ça que je me trouve. Je dis, mais je fais ça en rigolant.
Le diapason verdien étant
435.
Donc un peu plus bas que le l'accord habituel.
Je comprends.
Et donc tout d'un coup, ça changeait tout, vraiment, cette petite différence.
Dis donc, tu te rends pas quoi.
Ah non, je ne me rends pas compte. Je suis pas chanteur.
Au point de vue, c'est si dur, surtout. Ah oui, ça change énormément.
Alors, Vienne a été que la première étape, voilà, d'un long tour du monde pendant pas mal d'années. Il y a eu vos débuts à Londres en 1961, je crois, à Covent Garden.
Oui. Mais j'étais très bien reçu à Londres. Hein. Il y avait un public fabuleux. Public qui préférait finalement voir des acteurs que des chanteurs.
Ah, justement, ce qui vous intéresse, vous l'avez trouvé chez les Anglais.
Exactement. Ils étaient enthousiastes de voir jouer Shakespeare comme ça.
Être ou ne pas être. Mystère, mourir, dormir.
L'année suivante, vous avez chanté à Genève Don Carlos dans la grande version française.
Don Carlos, oui. C'était l'ouverture, la reprise de l'ouverture du Théâtre de Genève.
Et puis alors, ensuite, il faut le dire aussi, parce que c'est une ville où vous avez été aussi une vedette, on peut dire. Il y a eu New York à partir de 1964. Vous avez commencé là à être un des représentants, on peut dire, de l'opéra français dans cette ville, avec d'abord Sanson et Dalila.
Eh hein. Oui, j'ai été engagé pour ça, et Manon.
Manon de Massenet.
Et alors, ils voulaient me couper tout, à un moment donné,
Manon. Ah bon?
Oui. À quoi bon l'économie quand on a trois des hommes? Allez, ouais. Sucré.
Ah bon?
On n'a pas le droit de le faire, on ne le fait plus.
Pourquoi?
Ah, j'en sais rien. Et puis, enfin, c'est pas là, la dame de pique. Et là, se termine ma chanson. Coupé. Alors là, j'ai fait voir mon caractère. Uh-huh. Et j'ai dit simplement, si vous coupez ça, vous pouvez aller en chercher un autre. Vous rétablissez ou je ne chante pas. Eh bien, ils ont travaillé, ils ont tout rétabli.
Vous aimiez, Gabriel Baquier, l'existence de star de l'opéra itinérant? Comment ça se passe? On va de cocktail en dîner, en réception, dans toutes les villes du monde. C'est ça, la vie d'un chanteur?
Oui, j'y vais pas.
Non, vous faisiez pas ça?
Non. J'ai dû aller une fois, à Miami, je m'en suis mordu les doigts. Parce que j'ai transpiré toute la soirée, après, parce qu'il a fallu faire danser ces dames, et ce genre, qui faisaient la réclame pour leurs produits de beauté, et qui étaient plissées comme des figues sèches. Oh, c'est terrible.
Et alors donc, quand vous étiez, par exemple, à New York, vous meniez une vie ascétique entre les représentations pour vous concentrer sur votre travail?
Quand j'étais en Amérique ou à New York en particulier, le décalage horaire vous oblige à prendre des dispositions pour être en forme. Je me bouchais les oreilles avec des boules quies. Je me mettais le masque.
C'est ça.
Et je mettais du noir au rideau. J'avais un tissu noir que je mettais sur le rideau principal. Et j'étais dans l'ombre complètement. Uh-huh. Et là, je pouvais m'endormir et récupérer du décalage. Mais donc, c'est dur, c'est difficile, ça.
Vous n'avez, voilà, c'est pas seulement un plaisir de voyager d'un pays à l'autre pour chanter.
Ben, c'est-à-dire que non. Si on veut être bien, en forme, conscient de ce qu'on fait, bien servir la musique, ouais, servir l'œuvre que l'on chante, il ne faut pas s'amuser à faire tous ces déplacements.
Non.
Ça influe beaucoup sur la santé. Et donc, on passe sûrement à côté de la question à cause de ça.
Épouse quelque brave fille,
Gabriel Baquier, est-ce qu'il faut, pour être un grand chanteur et chanter un peu partout, comme ça, d'un jour à l'autre, une discipline de vie?
Moi, non. Parce que si j'avais eu une discipline de vie, c'est que j'aurais été malade. Voilà, c'est tout.
Donc, pas de...
Alors, je ne buvais pas, spécialement.
Vous ne fumiez pas, déjà?
Je ne fumais pas, j'ai fumé. Je fumais des jardins de maïs.
Même quand vous chantiez?
Oui. Ouais. Mais tout ça, c'était en sortant pour que la fumée vienne dans mes narines pour me réchauffer mes naseaux. C'est tout.
Vous ne buviez pas?
C'est-à-dire que j'ai voulu imiter Caballé à un moment donné.
Ouais.
J'ai dit, elle fume, pourquoi pas moi?
Alors, vous ne buviez pas de vin à table?
Ah si.
Ah oui?
Comme ça, un verre de vin, c'est tout.
Vous essayez de vous maintenir à l'époque en bonne condition physique, en faisant de l'exercice, du sport, des choses.
J'ai horreur de ça. Ça fatigue pour rien. Oh. Le sport, j'en ai fait en faisant du rugby quand j'étais môme. À côté de chez moi, j'habitais au long du canal du Midi et il y avait le terrain de l'AS Bitéroise de rugby. Là. Et j'ai fait du rugby parce que j'habitais à côté, c'est tout. Et que mon père m'a dit, tiens, un peu, on va lui faire tâter, c'est comme ça, c'est tout.
Et encore, alors à propos du métier, je parlais de la discipline de vie, des exercices. Il y a aussi la question de, avant d'entrer en scène, je ne sais pas comment vous avez vécu ça, du trac.
Je ne peux pas dire que j'ai eu le trac.
Jamais.
Je n'ai jamais eu le trac. J'ai eu quelques appréhensions quand j'abordais évidemment un truc pour la première fois. Disons des appréhensions. Ça me demandait une concentration spéciale pour essayer d'oublier ce qui pouvait me toucher. La crainte du trac. J'aurais sûrement fait une bêtise, fait un oubli, si je m'étais laissé manger par le trac. Donc, il fallait pas que j'y pense, il fallait que je me concentre bien sur ce que je faisais. Et dès, mais c'est important parce que ça va avec, dès que j'étais en coulisses, je racontais la plus grosse bêtise. Pour essayer de pouvoir rentrer tout de suite, après, revenir en scène. Ça, c'est, je l'ai expérimenté souvent, ça.
Vous faisiez rire tous vos partenaires, ça les déconcentrait.
Je ne sais pas si c'est déconcentré ou si c'est médical. Je crois qu'il y a quelque chose dans moi qui fait que cela me soigne d'agir comme ça. Voilà.
Est-ce que les artichauts froids sont meilleurs que chauds? Moi, je ne sais pas, renseignez-moi. Car s'ils sont meilleurs chauds, moi qui les mange froids, je les réchaufferai la prochaine fois. On le sait pour le gigot, ou les escargots, ou les cuisses de veau. Mais dites-moi, est-ce que les artichauts froids sont meilleurs que chauds? Et chaud ou froid, dites-moi pourquoi.
Gabriel Baquier, on le comprend dans cette petite présentation que vous avez faite de vous-même au début de chaque émission. Vous êtes un homme plein d'humour, de drôlerie, de verve. Et je voudrais qu'on aborde justement le fait que, après les grandes années d'opéra à travers le monde, les rôles dramatiques, vous avez évolué, surtout peut-être dans les années 80, vraiment vers les rôles bouffe. Est-ce que c'était quelque chose de calculé ou qui était lié à l'évolution de votre voix ou de vos désirs?
Vous venez de le dire, ça dépendait de l'évolution de ma voix. C'est-à-dire qu'arrivé à un certain âge, ou un âge certain, on est obligé de changer de répertoire. Parce que on ne peut plus, en tout cas ce qui m'est arrivé à moi, on ne peut plus assurer une brillance vocale dans un certain répertoire que l'on possédait bien avant. Donc, à ce moment-là, on prend la décision de changer le répertoire et d'aller vers le bouffe, qui nous amène à faire aussi des rôles intéressants. Parce que qui dit bouffe ne dit pas rigolo. Ça s'appelle bouffe, mais pas rigolo. Parce que l'interprète, lui qui joue le rôle principal, il est rigolo par la situation, mais lui, il prend tout au sérieux.
Dans les rôles bouffe et les compositeurs que vous avez abordés, bon, il y avait déjà, on peut dire même un peu avant, Donizetti.
Oui.
Et puis il y a eu Offenbach, beaucoup, oui, avec ses disques merveilleux que vous avez enregistrés, avec La Péricole, avec La vie parisienne. Vous avez aussi beaucoup chanté, je crois, La belle Hélène, Agamemnon. Oui. Vous avez une affinité avec le grand Jacques?
Et beaucoup. Il a bien étudié son coup dans un... construction musicale bien propre à lui, et puis enfin qui allait aussi avec une époque parisienne. Il essayait de faire oublier par sa musique, mais c'était un homme très érudit de l'Antiquité. Il connaissait ça sur le bout du doigt. Donc il pouvait se permettre de plaisanter avec ça, avec La belle Hélène, par exemple.
Le roi barbu qui s'avance, but qui s'avance, but qui s'avance, c'est Agamemnon. Et ce nom, seul me dispense, seul me dispense, seul me dispense, d'en dire plus long. J'en ai dit assez, je pense, en disant mon nom. Le roi barbu qui s'avance, but qui s'avance, but qui s'avance, c'est Agamemnon. Agamemnon. C'est Agamemnon.
Les grands entretiens de Gabriel Baquier, France Musique.
Je parie que vous avez fait un jour une danse du ventre dans La belle Hélène.
Ah oui, mais ça c'est personnel. Ça c'était pour embêter Martin.
Pour embêter Jacques Martin?
Oui, parce que il avait été comme un épicolé beaucoup, hein. Alors il avait été avec moi là pendant les répétitions.
Il faisait Ménélas.
Oui, Melkas, j'appelais. Et il avait été un peu, même jusqu'à être odieux avec moi. Et il nous cherchait toujours la petite bête, ainsi de suite. Pour... Alors, je n'ai fait ni une idée, je n'ai rien dit. j'ai marché comme il voulait, en disant les répliques qu'il fallait dire, ainsi de suite, parce que il fallait aussi que les répliques, n'est-ce pas, tombent avec ce qu'il avait imaginé. Bon, c'était lui qui payait, c'était lui qui avait l'émission, c'était lui, n'est-ce pas, qui était dans le coup, de A jusqu'à Z. Ça, on pouvait pas le lui reprocher. Donc, il fallait marcher comme ça. Et puis, tout d'un coup, dans la musique de Offenbach, ça me vient comme ça. Mais c'est vite. J'entends Tramaka, la moukère, Tramaka, Bruno. Et je me mets à faire la danse du ventre. Alors, il a essayé de le faire, mais adieu, ça n'a pas marché. Rien ne remuait. Alors ça a été un succès fou. J'ai foutu la vedette en l'air.
Vous avez d'ailleurs des souvenirs de fous rires en scène ou de situations imprévues devant le public qu'il faut rattraper comme ça, comme des accidents?
À propos de la pauvre Cabaye, qui avait sauté dans le Tibre, dans la Tosca, oui, sur un trampoline. Ah oui, oui, elle était remontée, on l'avait vu.
C'était prévu?
Et oui, mais on n'a pas pensé qu'elle allait être en vue.
Eh oui, on ne pensait pas qu'on allait la voir rebondir. C'était juste pour amortir la chute.
Oui, adieu, ploup, la revole en l'air. Elle est retombée devant dans le Tibre. Mais autrement, il y en a eu des quantités. Écoutez, c'est marrant, parce que le public entend vraiment les paroles qu'ils connaissent, n'est-ce pas? Oui. Dans une chose comme le Barbier, par exemple, ils connaissent très bien « C'est votre talent militaire, et nous, on chantait. » C'est pour ça le militaire, l'enculé de la cuisinière. Oui, monsieur, 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 c'est pour la baiser. C'est pour ça le militaire, l'enculé de la cuisinière. Il bougeait pas.
Une chanson paillarde, mais il reconnaissait pas les syllabes.
Mais c'était pour la baiser. Oui, monsieur, oui, monsieur, mais c'était pour la baiser. Comme ça.
Mais bouge, pendant des représentations.
Bouche presque fermée. On ne se gênait pas, mais on se marrait.
Conduisez le beau courtisan et que cet exemple serve. Dans le cachot, on réserve, on réserve. Au mari Ré, au mari Cal, au mari Si, au mari Tran. Au mari Ré, Cal, Si, Tran, au mari Ré, Cal, Si, Tran.
On a évoqué Gabriel Baquet, Montserrat Caballé sur son trampoline. C'est quelqu'un que vous avez beaucoup aimé, Montserrat. Vous l'avez connu comment? Sur scène, j'imagine, mais c'était quelqu'un d'assez proche?
Très, très proche. Je l'ai rencontré quand je suis allé à Barcelone chanter le Don Giovanni, présenté plus ou moins par son frère, qui avait voulu, lui, son frère, que sa sœur à bord de ce répertoire qu'elle faisait, Elvire.
Donna Elvire.
Voilà. C'est là que je l'ai rencontré pour la première fois. Et puis, nous nous sommes perdus de vue, parce que le métier l'a voulu, mais que j'ai retrouvé par la suite à Philadelphie, dans le Barbier. Et c'est là que nous avons commencé à nous apprécier, quoi. D'ailleurs, dans l'interview que nous avons eue aux arènes, enfin, au mur d'orange, c'est magnifique. La façon dont elle rit avec moi et dont je parle d'elle, dont elle parle de moi. C'est comme si on avait vécu longtemps ensemble, comme ça. Ça m'a laissé ça, moi, personnellement, ça m'a laissé comme une sœur, presque, une sœur.
Elle aimait bien rire aussi?
Alors, elle était pas la dernière. Et en pleine gomme. Oh, elle adorait ça.
Je pense aussi à votre partenaire, puisqu'on évoquait Offenbach, dans La Péricole, qui est une femme pleine d'esprit aussi, tout comme vous, c'est La Berganza.
Ah, La Berganza, ça, c'est autre chose. Ah oui, La Berganza. Qu'est-ce qu'elle m'avait dit un jour? Ne me regarde pas comme ça, tu vas me foutre enceinte. Tu sais, des paroles à elle.
Oui, oui, mais c'est une comédienne aussi, elle. Hein.
J'adorais travailler avec elle. Beaucoup d'esprit, vivace.
Hein. Piquante.
Ah oui. Quand je l'ai rencontrée, je me suis content. Mais nous n'étions pas les derniers à dire des bêtises.
Thank you.
présentiez alors Offenbach en disque mais aussi en scène, il y avait quand même quelque chose de nouveau que vous aviez fait sans doute dans votre jeunesse, mais c'était de passer tout le temps du parler au chanter et du chanter au parler. On dit que c'est pas très facile de changer de registre de voix comme ça, c'est un exercice.
On peut parler, vous voyez, je suis ça, n'est-ce pas, c'est pas naturel. Là, ça s'appelle parler comme on chante. Ouais. Sur le timbre, vous pouvez pas parler comme ça. Oui, comme je suis, ça, on dit, je sais pas, comme on parlerait dans la vie, journellement. Il faut pouvoir le dire comme ça. Et je ne vois pas ce qu'il y a de difficile de parler à cette pause vocale, qui n'en est pas une d'ailleurs, de parler pour reprendre le timbre et chanter.
Mais il y a beaucoup de chanteurs. Beaucoup de chanteurs n'y arrivent pas. Ils gardent une diction de chanteur, même quand ils sont en train de parler.
Alors, ce qu'ils ne sont que chanteurs. Voilà. C'est
fou. Allez, encore un petit mot des chanteurs. Justement, on a parlé on a parlé des dames. Parlons des messieurs, puisque le partenaire obligé du baryton, c'est le ténor. Il y a Vanzo que vous avez connu très jeune.
Ah oui. C'était un gars.
Une grande voix.
Non, c'était pas une grande voix.
Non.
Et c'était pas une petite voix non plus, mais alors attachant, attachant de simplicité.
Vous étiez connu très jeune aussi avec Vanzo.
Pas au conservatoire, hein. Mais dans le métier, dès que j'ai été à l'Opéra Comique, j'ai connu Alain, évidemment.
Mais il était un peu naïf comme un ténor, quoi. Je ne vais pas dire de mal des ténors devant un baryton. Mais...
Non, je ne veux pas dire qu'il était naïf, il avait une certaine roublardise.
Ah bon.
Je crois que finalement, que ça ne lui plaisait pas de passer pour ça. Parce que ça lui permettait beaucoup de choses. Quand il a chanté un jour devant Rosenthal, attention, il s'en est pas rendu compte ou il l'a fait exprès pour semer la panique, j'en sais rien. Parce qu'il a chanté, au lieu de dire, au rythme qui se casse, à la rime qu'on casse, il fait « Oh, toi qui me les casses !» Puis il n'y a plus personne. Même Rosenthal sur le pupitre.
Peut-être qu'on dise un mot, Gabriel Baquier, de chef d'orchestre, un peu oublié, mais qui ont été des grands chefs lyriques avec qui vous avez travaillé. Je pense notamment à Jésus Etcheverry, avec qui vous avez fait quand même pas mal d'enregistrements.
Pour moi, Jésus...
C'était beau de s'appeler
ça
Jésus.
Ça a été mon chef lyrique de prédilection. Parce que Jésus faisait ce que certains autres chefs, beaucoup d'autres chefs, ne faisaient pas. Il chantait avec le chanteur. Il respirait avec le chanteur et il savait écouter le chanteur. Il faisait pas de la musique au pupitre pour faire de la musique. Il était avec le chanteur et c'est le chanteur qui comptait en premier. Et il était toujours la baguette en l'air comme ça. Ou alors quand on se trompait, il l'essuyait, faisait comme ça. Il essuyait la baguette.
Ouais.
Non, mais il avait...
C'était quel genre de personnage, Etcheverry?
Triste. Ça paraît pas. Hein. On sentait qu'il avait besoin de ça pour être quelqu'un d'autre de ce qu'il était dans la vie.
Dans la vie.
Faire de la musique.
Ah, oui.
Et là, il sortait de ses gonds, il s'envolait. C'est extraordinaire. Mais je l'ai toujours senti préoccupé, anxieux. Pas dans la conduite, hein, mais dans la vie.
Un autre grand chef français que je crois que vous avez bien aimé et qu'on a un peu oublié, mais qui était un vrai chef lyrique, c'était Paul Etouin.
Popol.
Ah oui. Popol.
Ah oui, Popol, on l'aimait beaucoup, mais alors, qu'est-ce qu'il pouvait gueuler,
il
gueulait toujours après les chœurs.
Ah bon,
ça n'en est jamais. Popol, je l'ai assez bien connu parce qu'il m'a pas mal dirigé quand j'étais à Rouen, au cirque et partout. On a fait beaucoup. Oui, oui.
Au cirque ?
Au cirque.
Mais dans quel cadre alors ?
Mais il n'y avait pas de théâtre.
Ah, le théâtre n'était pas reconstruit.
Bombardé.
Ah,
oui. Donc, on chantait au cirque. Et Popol. Popol, c'est Popol. C'est tout. Je ne peux rien dire de sa vie personnelle, je n'en sais rien. Je ne sais pas.
Les Contes d'Hoffmann de Jacques Offenbach, l'air de D'Apertuto, chanté par Gabriel Baquier, sous la baguette de son cher Jésus Etcheverry. Et on retrouvera donc ses entretiens avec Gabriel Baquier demain à la même heure. Équipe de réalisation Sandrine Malon, Pierrick Charles, Flora Sternadel, Perrine Mingui. Tous les renseignements et le podcast, eh bien vous pouvez le trouver sur francemusique.fr.
France Musique. À réécouter sur francemusique.fr.